Bonsoir Stanislas Vazak.
Bonsoir. Au moins 150 000 manifestants dans toute la France pour le 1er mai. Une fête du travail à nouveau parasitée par les Black Blocs. Les incidents et les violences se sont multipliés aujourd'hui à Paris. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, a même dû quitter momentanément le cortège syndical. Dans un instant, nous retrouverons nos envoyés spéciaux Maxime Fayol et Rosalie Lafarge. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido espère rassembler des centaines de milliers de personnes pour chasser du pouvoir Nicolas Maduro. À Washington, le secrétaire d'État Mike Pompeo évoque une intervention militaire américaine. L'explication dans ce journal avec Benjamin Delisle à Caracas et Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la campagne des élections européennes chez nos voisins. Aujourd'hui, le Royaume-Uni. En attendant le Brexit, les partis politiques britanniques improvisent la campagne électorale. Un reportage d'Antoine Gignot. Enfin, pour le dossier de cette édition, Mathilde Imberti nous emmènera en Italie sur les traces de Léonard de Vinci. Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella célébreront demain le 500e anniversaire de la mort du génie de la Renaissance. Les manifestations du 1er mai ont rassemblé aujourd'hui 151 000 personnes dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 310 000 pour la CGT. À Paris, les autorités ont compté 16 000 manifestants. Le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias dont Radio France, avance le chiffre de 40 000. Quant à la CGT, elle revendique 80 000 manifestants dans la capitale. Mais ce que l'on retient ce soir, c'est que les défilés syndicaux ont une nouvelle fois été débordés par les Black Blocs et autres militants radicalisés. Les violences se concentrent actuellement près de la place d'Italie, point d'arrivée du cortège syndical. On retrouve sur place Maxime Fayol, bonsoir.
Bonsoir.
Maxime, plusieurs dizaines d'individus ont commencé tout à l'heure à assiéger le commissariat du 13e arrondissement. Alors est-ce que le calme est revenu aux abords du bâtiment ?
Eh bien, il y a une vingtaine de minutes, le boulevard de l'hôpital était un peu plus calme, largement quadrillé, coupé en morceaux par les CRS pour mieux le contrôler. Mais depuis quelques minutes, on entend de nouvelles détonations et des sirènes, signe que tout n'est pas terminé. Alors pourquoi c'est ici que tout a dégénéré ? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir quelques minutes avant l'arrivée du cortège au boulevard de l'hôpital, à 200 mètres à peine de la place d'Italie. Les CRS avaient en fait bien contrôlé la foule jusqu'ici. Ils n'avaient peut-être pas anticipé qu'il y aurait déjà autant de monde près du point de rendez-vous final. Des manifestants qui n'ont pas suivi le cortège, mais aussi certains Black Blocs venus de certaines rues perpendiculaires. C'est vers 16h15 que les choses ont pris une toute autre tournure. Les forces de l'ordre ont envoyé énormément de gaz lacrymogène qui ont forcé les manifestants à redescendre. Ils se sont alors retrouvés pris en étau. Les détonations se sont multipliées. Les canons à eau ont été dépêchés, directement activés, entraînant la chute de plusieurs dizaines de personnes. Je me suis alors réfugié dans un recoin du boulevard de l'hôpital, devant la faculté de médecine de la Salpêtrière. On a alors vu des policiers de la BAC intervenir, courir dans tous les sens et frapper, semble-t-il au hasard, plusieurs personnes. Un homme juste devant moi s'est retrouvé à terre et roué de coups de matraque en tentant de fuir. Une réplique d'une puissance surdimensionnée par rapport à la véhémence de certains manifestants qui les ont certes copieusement insultés. On a vu aussi quelques bouteilles jetées sur les boucliers. Une manifestante présente, elle, depuis le 17 novembre, me disait qu'elle n'avait jamais vu une telle riposte policière de la part des forces de l'ordre.
Maxime Fayol avec Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. Alors ces violences ont éclaté avant même le départ de la manifestation syndicale à Montparnasse. Des Black Blocs avaient déjà noyauté le cortège. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous avez assisté aux premiers incidents et aux premières ripostes musclées des forces de l'ordre.
Cagoulés et masqués en noir de haut en bas, des centaines de radicaux infiltrent rapidement le cortège. Malgré les nombreux contrôles, ils sont lourdement équipés et cherchent manifestement l'affrontement.
Tout le monde déteste la police ! Tout le monde déteste la police !
Face à eux, les policiers sur les dents chargent rapidement.
Vous changez, restez pas là.
Ah ouais, ça y est, ça part.
Ça tire les gars, faites gaffe.
Ça dégénère complètement. Il y a des gros affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Ça charge de tous les côtés. Énormément de projectiles qui sont envoyés sur les forces de l'ordre qui répondent avec des gens.
C'est la guerre.
On nous charge, on nous gaze et voilà, c'est tout. On peut ni avancer ni reculer, on peut rien faire.
Entre les gaz lacrymogènes et la peur, certains s'effondrent.
Ils sont en train de faire un massage cardiaque, un mec a mangé.
Mais d'autres, parmi les gilets jaunes, encouragent les manifestants à monter au front.
Ouais,
énervés maintenant. Tellement qu'ils en mettent plein la gueule, bon.
On s'en est tellement pris plein la gueule, on s'est fait gazer, matraquer, taper dessus. Bah non, maintenant la police, on la veut plus avec nous.
J'ai le respect pour leur métier à un certain moment, mais là on peut pas respecter ça, quoi. On a la haine, on a la colère. Quand on donne, faut savoir recevoir.
Le cortège finit par s'éloigner en direction de la place d'Italie, laissant derrière lui un épais nuage de fumée blanche qui pique les yeux et gratte la gorge. Il va maintenant falloir évaluer les dégâts sur le boulevard du Montparnasse et ils promettent d'être importants.
Voilà pour ce reportage de Rosalie Lafarge au cœur des incidents à Montparnasse. Une image résume ce que beaucoup interpréteront comme un fiasco syndical. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, exfiltré du cortège en début d'après-midi, après avoir été pris à partie par des radicaux. Il est revenu ensuite dans la manifestation pour mettre en cause les forces de l'ordre.
C'est pas la première manifestation où il y a des faux départs, si je puis dire. Des arrêts. Ce que j'ai noté par contre aujourd'hui, c'est que la police a chargé la CGT. Une CGT bien identifiée. Et alors, pour un ministre de l'Intérieur qui nous avait dit, je maîtrise la situation, j'ai changé le préfet, vous allez voir ce que vous allez voir, et bien on a vu. Je suis comme vous, moi, les gaz lacrymogènes, j'évite d'en prendre trop dans la figure, parce que ça fait pleurer, ça pique la gorge, vous le savez. Ça fait un moment qu'on le dit. Bon, mais on a appris à se connaître, ça prend du temps, parce que les gilets jaunes ne connaissent pas les syndicats, donc ils sont un peu réticents. Mais dans beaucoup d'endroits, Paris c'est pas la France, dans beaucoup d'endroits, ça fait bien longtemps que les manifestations, elles se font ensemble, qu'ils viennent dans nos locaux pour faire leurs assemblées. Voilà, et c'est bien qu'après, qu'on se soit un peu regardé en chien de faïence pour savoir si on avait les mêmes revendications. On a les mêmes revendications, enfin... Hausse du SMIC, personne ne peut dire que c'est pas une revendication de la CGT. Pardon, justice fiscale, plus de services publics, c'est ce qu'on porte depuis des années. Donc c'est plutôt bien, il faut que ça continue. Il faut que ça continue.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Ces violences du 1er mai ont donné lieu à des dizaines d'interpellations, surtout à Paris. Il y a eu aussi des blessés. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
On fait avec vous un premier bilan précis de ces incidents du 1er mai dans la capitale.
Alors 288 personnes ont été interpellées dans la capitale, selon la préfecture de police de Paris. À l'heure où je vous parle, le parquet lui signale au moins 220 gardes à vue. Un mercredi qui a donc pris des airs de samedi. Ce 1er mai a viré au jaune, mais aussi au noir. Les 7400 policiers mobilisés à Paris ont été confrontés à des centaines d'activistes Black Bloc et de gilets jaunes radicalisés dès le début de l'après-midi à Montparnasse. Des affrontements également à l'arrivée du cortège Place d'Italie. Une trentaine d'individus ont par ailleurs pénétré à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et ont commencé à dégrader les lieux avant d'être interpellés. Un capitaine de police a été blessé près de l'hôpital après avoir reçu un pavé au visage. Un autre CRS venu de Metz a également été blessé dans la manifestation parisienne. Quelques blessés aussi parmi les manifestants, mais pas encore là de chiffres officiels.
Et puis Claire, les incidents de la manifestation parisienne ne doivent pas occulter la mobilisation en région qui a été relativement importante.
Oui, 6200 manifestants à Lyon, 2400 à Montpellier, 1500 à Lille. À Besançon, 2100 personnes ont été comptabilisées avec une tentative d'effraction à l'hôtel de police. Quelques heures aussi à Nantes, Marseille ou Grenoble. Mais les manifestations en région se sont dans l'ensemble déroulées dans le calme.
Claire Flochel, merci. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les manifestations du 1er mai en France. Nous y reviendrons dans notre prochain journal à 22h. Nicolas Maduro est toujours au pouvoir à Caracas. Le président vénézuélien semble garder le soutien de l'état-major militaire, alors qu'hier, son opposant Juan Guaido affirmait avoir rallié à sa cause une bonne partie de l'armée. Les tensions aux abords de la base militaire de la Carlota ont fait au moins 69 blessés. Mais dans la soirée, Nicolas Maduro annonçait avoir mis en échec, je cite, l'escarmouche putschiste. Nouvelle journée cruciale. Aujourd'hui à Caracas, le président autoproclamé Juan Guaido appelle à la plus grande marche de l'histoire du Venezuela pour chasser Maduro du pouvoir. On retrouve sur place Benjamin Delisle.
C'est le bras de fer le plus incertain de ces derniers mois qui se joue dans les rues de Caracas. Les deux camps se mobilisent, les chavistes d'un côté dans l'ouest de la ville, aux côtés de leur président Nicolas Maduro, qui a dénoncé une tentative de coup d'état ratée hier de la part de Juan Guaido, et les partisans de l'opposition dans 14 points différents. Le principal, celui de la place Altamira, est bondé de monde aujourd'hui, beaucoup plus de gens qu'aux concentrations des mois de mars et d'avril. Une ambiance très festive malgré les violences séance d'hier, on chante, on se motive avec des slogans anti-Maduro. Et il nous semble avoir oublié que des affrontements sanglants ont eu lieu à quelques mètres seulement la veille. Des pierres jonchent encore le sol, témoin de cette violence qui a secoué la capitale hier. On espère que Nicolas Maduro va finir par sortir du pouvoir. Les gens ne sont pas dupes et savent que cela ne se jouera pas dans les heures qui viennent, mais bien plus dans les jours qui viennent, et veulent continuer à se mobiliser. La grande question est de savoir si des violences vont éclater dans la journée et ternir cette manifestation qui s'annonce festive.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI et Radio France à Caracas. Alors, une cinquantaine de pays ont déjà reconnu l'autorité de Juan Guaido comme président légitime du Venezuela. En tête de liste, on trouve les États-Unis. Donald Trump n'a jamais caché sa volonté de faire tomber le régime Maduro. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
En direct de Washington, Grégory, les États-Unis qui agitent à nouveau la menace d'une intervention militaire américaine au Venezuela.
Oui, à nouveau, vous avez raison, ce n'est pas la première fois que Washington dit que toutes les options sont sur la table, y compris l'option militaire, mais là, c'est dit avec un peu plus de force hier au moment où les télévisions américaines diffusaient en boucle l'image spectaculaire de ce blindé fonçant dans la foule des manifestants à Caracas. Eh bien, l'administration Trump faisait feu de tout bois contre le régime de Nicolas Maduro. Tweets et déclarations multiples de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, de Donald Trump lui-même et de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui a répété ses propos tout à l'heure sur la chaîne Fox News.
Si la question est de savoir si les États-Unis sont prêts à envisager une action militaire, eh bien la réponse est celle-ci. Le président a été très constant sur ce point et sans ambiguïté. Si pour restaurer la démocratie au Venezuela, il faut envisager une action militaire, alors l'option est sur la table. On espère ne pas en arriver là. On espère une solution pacifique et un départ de Maduro sans violence. Nous observons les violences en cours dans le pays et nous tenons Maduro pour responsable. Nous allons faire en sorte que la démocratie soit restaurée au Venezuela.
Ce soir, le patron du Pentagone, le ministre de la Défense par intérim, Shanahan, fait savoir qu'il annule un voyage prévu en Europe à cause de la situation au Venezuela. Et l'annulation de ce voyage est sans doute un autre signal adressé par l'administration américaine au régime de Maduro. Alors bien sûr, on l'a entendu, les États-Unis disent encore espérer une issue pacifique à cette crise. Mais en même temps, ils accentuent la pression sur le régime en place et aussi à distance sur Cuba et sur la Russie, les deux pays impliqués dans cette crise et qui continue à défendre et à soutenir Nicolas Maduro.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis, merci. Julian Assange, condamné à 50 semaines de prison par la justice britannique, environ un an. Le fondateur de Wikileaks a été reconnu coupable d'avoir violé ses conditions de liberté provisoire. Julian Assange avait été interpellé le 11 avril dernier dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il était réfugié depuis 2012. Les États-Unis réclament son extradition pour piratage informatique. Nouveau carnage islamiste au Nigeria, 30 morts lundi soir dans l'attaque du village de Kouda dans le nord-est du pays, attaque revendiquée par Boko Haram depuis 2014. Le groupe djihadiste a réussi à s'implanter dans plusieurs localités du nord-est du Nigeria avant d'être chassé par une force multinationale. Mais le groupe continue à mener des assauts sanglants contre les populations locales. Comme chaque mercredi, nous nous intéressons à la campagne européenne chez nos voisins. Direction ce soir le Royaume-Uni. Il n'était pas prévu que les Britanniques participent au scrutin le 23 mai prochain. Mais le Brexit n'en finit plus et il est de moins en moins probable que la Première ministre Theresa May parvienne à faire adopter son accord de sortie de l'UE avant la date de l'élection. Résultat, c'est dans la précipitation que les pros et les anti-Brexit improvisent une campagne électorale. Le reportage à Londres d'Antoine Gignot.
Il n'a pas encore imprimé les affiches, ni les tracts, et il le dit lui-même, il n'a pas non plus de slogan. Mais Seb Dance n'a pas le choix, député européen travailliste de Londres, il a 3 semaines pour convaincre.
On va faire campagne le soir et les week-ends. Ce qui est drôle, c'est qu'on découvre aujourd'hui qu'on est censé avoir surveillé nos comptes de campagne depuis la fin du mois de janvier. Du coup, on doit vérifier que toutes les dépenses qu'on a faites ne dépassent pas les plafonds prévus par la loi.
Et ce n'est pas le plus compliqué, car pendant que Seb Dance, le travailliste, fait ouvertement campagne pour rester dans l'Union européenne, les conservateurs pro-Brexit, comme John Flack, tentent, eux, d'expliquer aux électeurs qu'ils veulent aller à Bruxelles pour pouvoir couper les ponts avec l'Europe. On ne sait pas si les élections vont avoir lieu ou pas. Mais que le Royaume-Uni continue à faire partie de l'Union européenne pour des semaines, des mois ou des années, il faut qu'on envoie là-bas des gens capables de remplir leur mission. On ne peut pas envoyer un troupeau d'ânes qui perturbe le fonctionnement du Parlement européen.
Car les eurosceptiques, comme Jacob Rees-Mogg, ont déjà promis de mettre des bâtons dans les roues européennes et le parti du Brexit caracole en tête des sondages. Mais le véritable problème, c'est l'abstention. Lors des dernières élections, en 2014, 36% seulement des Britanniques se sont déplacés dans les bureaux de vote. Pour inverser la tendance, les étudiants sillonnent les rues de la capitale, pro et Brexit, ensemble, explique Ellie Varley, venue de Canterbury.
Un tiers des jeunes ne sont pas inscrits sur les listes. Alors on a pris un camion et on a fait aussi campagne sur Internet pour cibler les universités, les campus, les écoles, pour être sûr que les jeunes seront inscrits avant le 7 mai.
En cas de second référendum, cette implication des jeunes pourrait tout changer. À cause de la disparition d'une partie des électeurs âgés, le Royaume-Uni pourrait, cette fois, choisir de rester dans l'Union européenne.
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir en Italie sur les traces de Léonard de Vinci. On célébrera demain le 500e anniversaire de la mort du génie de la Renaissance. Pour l'occasion, Emmanuel Macron recevra à Amboise et Chambord son homologue italien Sergio Mattarella. Alors les relations franco-italiennes se sont quelque peu refroidies depuis l'arrivée au pouvoir des populistes à Rome, à tel point que la secrétaire d'État italienne à la culture, Lucia Borgonzoni, a remis en question le prêt au Louvre de tableaux de Léonard de Vinci pour une rétrospective. Pour la ministre issue des rangs de la Ligue, c'est en Italie que l'œuvre de Léonard doit être promue. Alors, loin des polémiques diplomatiques, la Toscane, berceau de Léonard, revendique l'héritage de son génie. De Vinci à Vinci, c'est un reportage de Mathilde Imberti.
Les drapeaux italiens flottent encore aux fenêtres du bourg, plantés dans un paysage d'oliviers toscans. Vinci est si fier d'avoir reçu le 15 avril dernier le président de la République italienne pour le lancement de l'année Léonard, artiste scientifique et grand observateur de la nature.
Sono Roberta Barsanti, direttrice.
Je suis Roberta Barsanti, la directrice du musée Léonard de Vinci. La campagne a été pour Léonard une source d'inspiration pour ses futurs travaux. Au XVe siècle, les collines sont parsemées de moulins. Il étudie la force motrice de l'eau. D'ailleurs, on va retrouver dans son code atlantique un modèle technique de moulin qui porte le même nom qu'un des moulins ayant existé à Vinci. Sa terre natale l'a stimulé.
À Vinci, le temps des célébrations, le premier dessin de Léonard est exposé. Année 1473, une lumière très faible éclaire ce bijou excessivement fragile qui reste en temps normal enfermé dans le noir. Un paysage raffiné, tracé à l'encre et accompagné de quelques mots écrits par Léonard lui-même.
C'est à partir de ce dessin que nous savons de manière certaine que Léonard pouvait écrire aussi bien de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite et aussi bien de la main gauche que de la main droite. Ce dessin est tellement majeur que je l'appelle la Joconde des dessins. C'est son premier et c'est un chef-d'œuvre absolu.
Des chefs-d'œuvre, le public en contemple toute l'année au musée des Offices de Florence, à 40 km de là. L'Annonciation, le baptême, l'adoration des mages sont conservés dans une salle climatisée, contrôlée par les instruments les plus sophistiqués et sous le regard soucieux du directeur des Offices avec la chimie.
Il faut savoir que les trois peintures que les Offices possèdent sont des peintures sur bois. Il s'agit de matière organique et avec ne serait-ce qu'un tout petit peu d'humidité, sans même parler de changement de température, le bois gonfle ou se rétracte.
L'humidité, à part la température, se contrae ou se allarge.
Léonard doit être promu en Italie en priorité. C'est un des arguments de la secrétaire d'État à la culture pour rediscuter les accords avec la France. Pour des raisons là purement techniques, le directeur des Offices a lui émis un avis négatif auprès de ses œuvres au Louvre. Même perplexité chez Roberto Bellucci, qui a restauré durant 3 ans la célébrissime adoration des mages au sein de l'atelier des pierres dures de Florence, le plus prestigieux au monde.
È vero che adesso si fa molto per diminuire questi rischi.
C'est vrai qu'aujourd'hui on est capable de réduire les risques, mais le risque zéro n'existe pas et dans le cas précis de l'adoration des mages, je me méfierais. Il fait 2,50 m sur 2 m. Il est constitué de 10 panneaux de bois. Le tableau est conservé de manière optimale dans son environnement, mais nous n'avons pas suffisamment de garanties pour le déplacer.
Entre la prudence des experts, l'hostilité de certains politiques, quelles œuvres de Léonard passeront in fine les frontières de l'Italie ? Des arbitrages pourraient être rendus en marge des célébrations demain.
Sur les traces de Léonard de Vinci, un reportage de Mathilda Berthier à retrouver sur franceculture.fr. Le temps demain sera instable avec de nombreuses averses. Sur une large moitié est, les pluies prendront parfois un caractère orageux. Ailleurs, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Température minimale comprise entre 5 et 12 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 13 à 22 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.